Sam. Alors, il me semble, quand on parle de la Syrie, d'ailleurs, ce que notre sœur en parlait, on en a pas mal parlé ce matin. Alors bon, il me semble qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Damas ne sera plus. Vous savez, Damas, c'est une des villes les plus anciennes du monde qui existe. Et il me semble bien qu'il y a un verset dans la Bible, peut-être dans Ésaïe, qui dit que Damas ne sera plus. Et on ne sait pas ce qui se passera encore avant le retour de Christ. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas à prendre littéralement, mais néanmoins, c'est impressionnant ce qui se passe. Alors, ça n'est pas pour parler de Damas. Ce n'est pas ça que j'ai à cœur ce matin de partager avec vous. Trouver des liens. Mais j'aimerais parler ce matin, enfin le titre qui pourrait être donné à ce message, c'est les voix qui se font entendre dans nos vies. Les voix qui se font entendre dans nos vies. Et j'aimerais vous parler de Babylone tout d'abord, puis après de la voix d'une mère. Et dernièrement, de la voix de Dieu. Donc les voix qui se font entendre dans nos vies. Donc prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Et merci parce que toi, tu es un Dieu réel, vivant et vrai, et qui parle, qui est puissant, Seigneur, et qui prend soin de nous, de nos familles, de nos bien-aimés, et aussi qui fait entendre sa voix, Seigneur, dans nos vies. Et nous prions, Seigneur, que tu nous gardes, que tu gardes nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, car toi, tu as les moyens et la puissance de le faire, Seigneur, si nous sommes attentifs à ta voix et à tes commandements. Amen. Voilà. Donc le premier passage que j'aimerais prendre avec vous ce matin se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Livre de l'Apocalypse au chapitre 17. Alors, je crois que je dois profiter aussi transmettre des nouvelles de Christina et les enfants qui vont bien jusque-là. Voilà. Alors, je veux dire qu'ils vous saluent. C'est vrai que ça n'a pas été fait, mais je crois qu'ils vous ont dans le cœur. Voilà, parce qu'après, si, une fois que je serai vraiment dans le message, ce sera autre chose qui va prévaloir. Mais en tout cas, si vous voulez continuer à penser à eux, ça c'est important. Alors, lisons dans Apocalypse chapitre 17. Et c'est peut-être parce que je manque de voix chez moi que j'ai fait ce message, je ne sais pas. Mais lisons dans Apocalypse chapitre 17 tout d'abord. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voilà, alors on pourrait continuer à lire. On pourrait continuer à lire les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, parce que ces deux chapitres parlent de cette grande Babylone, cette grande Babylone. Alors, je veux pas aller dans trop de détails, mais très clairement, quand même, le livre de l'Apocalypse nous parle d'un temps de jugement, d'un temps aussi où le péché atteint un point, je dirais, de non-retour, et où il doit être jugé. On voit dans la Bible qu'il y a différentes périodes de jugement où Dieu a jugé, en particulier Babel. Et ici, dans ce chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse, d'une manière imagée, eh bien, Jean nous présente cet état de choses. Et il nous présente une femme prostituée pour décrire ce qui est appelé Babylone. Et la majorité des interprètes de la Bible, en tout cas que je connais, voient dans cette femme prostituée une fausse religion. Pourquoi? Parce que souvent dans la Bible, enfin, c'est pas souvent, l'Église, elle est représentée est appelée l'épouse de Christ. Et il semble bien que dans cette femme qui est prostituée, eh bien, il y a la description d'une fausse religion. Fausse religion qui existera avant le retour de Christ, qui peut-être de certaine manière existe déjà aujourd'hui, et qui serait simplement un christianisme corrompu, prostitué. Puis dans le chapitre 18, il y a aussi la description de Babylone comme une grande ville. Et même si c'est difficile de séparer les deux, il semble bien qu'il y a ces deux descriptions. Babylone, cette grande prostituée religieuse, puis Babylone, cette grande ville, cette grande ville qui commerce, qui est préoccupée à s'enrichir, à faire de l'argent, qui est matérialiste. Et on peut lire cela au chapitre 18. Enfin, à partir du verset 11 de l'Apocalypse, chapitre 18. Il nous est dit: Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur et de toute espèce d'objet d'ivoire et de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, en cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront: Malheur, malheur! La grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil et ils criaient et disaient: Malheur, malheur! La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Voilà. Et ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints et les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Et je trouve cette description assez incroyable au milieu du livre de l'Apocalypse. Je me dis que Jean, qui a écrit ce livre, avait une grande connaissance. Une description tellement détaillée de tout ce qui peut se commercer. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, ce détail ici qui est fait. Mais je crois que ces deux choses, c'est cette prostituée, très probablement religieuse, et cette grande ville, eh bien, décrivent de plus en plus le monde actuel et les voix qui peuvent se faire entendre dans notre monde. Les voix que nous entendons aujourd'hui de plus en plus dans notre monde sont les voix de l'impudicité, de la prostitution, de l'ivresse certainement, et aussi d'une fausse religion, oui, et aussi toute cette voix du commerce, de l'échange, de l'enrichissement de cette grande ville merveilleuse, tellement riche, et qui pourtant sera jugée par Dieu. Et je crois que ce sont de plus en plus les voix que nous entendons dans notre monde d'aujourd'hui, les voix qui nous entourent, qui nous dominent. Si on allume la télévision, c'est ce qu'on va entendre, la prostitution, de l'impudicité, et toutes ces valeurs marchandes, tout cet échange. Et je crois que c'est vraiment de plus en plus le monde d'aujourd'hui. Si on va sur Internet, c'est la même chose. Si on va dehors, si on va au supermarché, eh bien, ce sont ces choses qui se font entendre de plus en plus. L'hédonisme, le matérialisme, le plaisir sous toutes ses formes, le plaisir immédiat et toutes ces choses qui ont remplacé Dieu. Et donc ça, c'est la voix de Babylone. Babylone la grande. Babylone qui dit, et c'est intéressant au chapitre 18, au verset 4, ces versets, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voilà, il y a cette autre voix qui se fait entendre, et ça on pourra y revenir. Et au verset 6 et 7, payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Donc là, il parle à ceux qui vont exécuter les jugements, ça n'est pas les chrétiens. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur qui l'a jugée. Et il est intéressant de voir cette autre voix qui se fait entendre, la voix de Dieu, et qui s'oppose à la voix de cette femme ou cette grande ville qui dit je ne verrai pas le deuil. Et vous savez, ça reflète aussi la mentalité du monde d'aujourd'hui. Le monde actuel dit, bien, je ne verrai pas le deuil. Le monde d'aujourd'hui est tellement confiant dans ses richesses, dans ses capacités à produire, dans ses capacités à créer, tellement certain qu'il n'y a pas de Dieu, et le monde d'aujourd'hui dit ça. Bien, je ne verrai pas le deuil. Le monde d'aujourd'hui dit, je suis assis en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. La certitude que ces choses vont continuer, que ces choses vont se perpétuer. Et Dieu dit, dans sa parole, il dit, eh bien non. Il y a une autre voix qui se fait entendre, celle de Dieu qui dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point part à ces fléaux. Et c'est de cette voix particulièrement que je voudrais parler ce matin, de la voix de Dieu. Alors, je vais peut-être avoir un peu de mal à faire ma transition, et ne pas parler directement de la voix de Dieu qui se fait entendre. Mais j'aimerais aussi vous faire découvrir maintenant une autre femme dans la Bible, non pas cette femme prostituée, mais une autre femme que l'on trouve dans Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Pardon, excusez-moi. Proverbe chapitre 31. Chapitre 30 est parole d'Agur, fils de Jakhé. Et chapitre 31 est parole du roi Lémuel. Alors, ce ne sont peut-être pas des personnes qu'on a l'habitude d'entendre. Mais néanmoins, c'est intéressant, chapitre 31 du Proverbe. Donc d'autres paroles, une autre voix qui se fait entendre dans la Bible. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils ? Que te dirais-je, fils de mes entrailles ? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux ? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. C'est intéressant parce qu'on a ce contraste, on a cette femme ivre et prostituée de l'Apocalypse, et là on a cette femme qui instruit son fils et qui le met en garde contre ce type de femme. Il lui dit au verset 3, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Et je crois que c'est très intéressant de voir ces instructions de cette mère à son fils. Autant dans l'Apocalypse, on voit cette société, cette ville, ce monde qui est ignorant de la voix de Dieu, des instructions de Dieu, des commandements de Dieu. Et autant là, on a le portrait d'une femme, d'une mère qui, elle, est attentive au commandement de Dieu, qui est attentive à ce que Dieu lui dit. Et c'est vrai que dans notre monde, on peut être confronté à ces deux choses. Et on est confronté à ces deux choses, à la voix du monde qui nous dit de faire n'importe quoi, de nous livrer à la débauche, à l'opulence, à la luxure ou autre. Et Dieu voulant, nous sommes aussi confrontés à la voix d'une mère qui, elle, nous dit de ne pas faire ces choses, de nous garder purs de cela. Et je crois, s'il y a bien quelqu'un qui peut nous enseigner cela dans le monde d'aujourd'hui et qui peut avoir une voix assez puissante, assez forte, pour faire face à la voix du monde, eh bien, c'est vraiment la voix d'une mère ou d'une grand-mère. Et c'est vraiment un des rôles que Dieu lui a confié ou leur a confié. Et si en tant que femme, aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas de puissance, eh bien, au contraire, vous avez une grande puissance par la voix que vous pouvez faire entendre à votre monde, à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Et c'est intéressant, je trouve, la manière dont c'est formulé ici dans Proverbe 31, quand il nous est dit « Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit ». Parce que ce sont les paroles d'un roi. Ça ne nous précise pas qui il était exactement. Peut-être un pseudonyme. Là. Mais en tout cas, ce sont les sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Ce sont des choses qu'il a entendues et dont il s'est souvenu et qu'il a rapportées. Donc il y a la portée, je dirais, il y a la puissance, il y a l'endurance de cette voix qui se fait entendre dans sa vie et qui a continué à l'influencer. Qui a continué à l'influencer. Et au verset 2, c'est très intéressant, on dit, on voit ici, « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » La manière dont c'est dit, on voit que c'est une mère qui a à cœur son enfant, qui aime son enfant, dit « fils de mes entrailles, fils, objet de mes vœux », une mère qui a des projets pour son enfant, qui voit un avenir pour son enfant. Et c'est vrai que dans notre monde, on peut parfois penser qu'on n'a pas d'avenir face à ce monde. Et ça, je crois, c'est une grave erreur. On a un avenir en tant qu'Église. Les chrétiens, que ce soit en Syrie ou autre, ont un avenir parce que Dieu est toujours puissant pour donner cet avenir. Mais en tous les cas, on a dans ce passage de Proverbe 31, ensuite, on a la description de, aussi au verset 10, de cette femme vertueuse. Et ce qui est très intéressant, eh bien, c'est que cela a été donné par une mère à son fils. Et je sais que cela a inspiré quelqu'un à écrire un livre. Vous pouvez le trouver pour ceux qui lisent l'anglais. C'est « What every woman should teach her children », ce que toute femme devrait enseigner à ses enfants. Et finalement, il lui enseigne ce qu'est aussi une femme vertueuse. Alors, on ne va pas aller dans le détail. Mais je sais qu'il y a quelques années, oui, quelques années, comme il m'était déjà arrivé de prêcher plusieurs fois dans ma vie, j'avais eu à cœur de prêcher sur les femmes dans la Bible, ce que la Bible peut dire des femmes. Et je me suis dit, mince, mais la Bible, et je crois que c'est parce qu'on m'avait parlé du Coran, c'est bien une comparaison, nombre de versets qui parlent des femmes dans le Coran, ou nombre de versets qui parlent des hommes. Je me suis dit, mais mince, c'est vrai que la Bible, elle consacre moins de versets aux femmes qu'aux hommes. Je me suis dit, quand même, quelque part, c'est injuste. Et en approfondissant un peu, je me suis dit, oui, mais quand même, j'ai cherché un peu les références aux femmes dans la Bible, ce qui pouvait être dit. Et je me suis aperçu que si Dieu parlait des hommes, beaucoup, peut-être plus que des femmes, eh bien, ça n'était pas toujours très, très flatteur. Et que bien souvent, dans l'histoire biblique, eh bien, on voit au milieu de la confusion, au milieu du péché, au milieu de l'abomination parfois, eh bien, on voit surgir la figure d'une personne qui tient bon devant Dieu, qui tient ferme devant Dieu, et qui quelque part tient presque le monde dans ses mains, et cette figure, c'est celle d'une femme. C'est incroyable dans la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament, à certains moments clés de la Bible, eh bien, ce sont des femmes qui ont fait la différence. On voit dans Genèse un peu, avec les femmes à qui Dieu a donné un enfant, et ce sont elles qui l'ont élevé. Et donc, on voit ça dans Genèse, certainement. Puis après, on voit des femmes clés en Israël. Alors, il y a des hommes clés, certes, mais il y a aussi des femmes clés. Alors, qui est-ce qu'on voit? On voit, par exemple, Ruth, un bel exemple. Après, on voit une autre femme qui est Anne dans le livre de Samuel. On va aller voir après. On voit Abigail, une des femmes de David, ou Esther. Et vraiment, à des moments vraiment cruciaux, on voit qu'il y avait des femmes. Alors, j'ai aimé ce que Janet a dit, qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène, qui étaient sur l'arrière de la scène, mais qui néanmoins tenaient le destin d'Israël et le futur d'Israël souvent entre leurs mains. Et ce sont elles qui ont fait la différence. Et si Dieu parle beaucoup des hommes, vous lisez le livre des juges, par exemple, c'est pas toujours très beau et c'est pas toujours très flatteur, n'est-ce pas? Et donc, ça n'est pas forcément la quantité. Alors, je vais être un peu flatteur, mais c'est aussi devant Dieu, c'est aussi ce qui correspond à Christ, ce qui ressemble à Christ, qui a de l'importance et de la valeur à ses yeux. Et ça, c'est important de voir ça et de faire cette différence. Alors, voyons donc une de ces femmes. Dans le premier livre de Samuel, on ne va pas voir en détail, mais vous connaissez certainement un peu ou beaucoup l'histoire de Anne, qui vivait juste à la fin de la période des juges, enfin d'une période difficile en Israël. Et on voit qu'il y avait une grande infidélité qui commençait à se faire jour. Enfin, c'était une période vraiment très difficile. Puis il y a cette femme qui a surmonté les difficultés auxquelles elle a été confrontée. Elle avait un mari qui, à cette époque, qui avait une autre épouse. Hein, la polygamie existait encore plus ou moins. On voit qu'elle était plus ou moins maltraitée par l'autre épouse. Qu'elle subissait des moqueries, et on la voit qui surmonte ces choses, qui va au-delà de ces choses, et qui demande un fils à Dieu parce qu'elle était stérile, et qui va avoir un fils, qui va recevoir un fils, qui va le consacrer à Dieu, et ce fils, ça va être Samuel, qui va vraiment être un peu le catalyseur, le moyen dont Dieu va se servir pour ramener Israël dans une meilleure voie, et en particulier pour accompagner David, pour oindre David. Alors on peut lire un peu dans 1 Samuel, donc 1 Samuel chapitre 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de... Bon, je ne vais pas faire toute la liste. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient aussi les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et là, on voit que Élie pense qu'elle est ivre. Elle dit, mais non, j'ai l'amertume dans le cœur. Mais en tout cas, on voit cette femme qui a fait un vœu à l'Éternel. Et son vœu, c'était d'avoir un enfant qu'elle consacrerait à Dieu. Et on voit que cet enfant a été à Samuel. Et Samuel est quelqu'un d'important dans l'histoire d'Israël. Et surtout, Samuel était quelqu'un qui était attentif à la voix de Dieu. Et donc maintenant, j'aimerais parler de la voix de Dieu, la parole de Dieu. Source d'influence, normalement, dans nos vies. Dieu peut nous influencer par des personnes, et il le fait, des personnes qui l'écoutent, des personnes qui lui obéissent. Mais Dieu veut aussi nous influencer par sa voix et par sa parole. Alors j'ai eu l'occasion cette semaine. Alors je sais que tous ces thèmes mériteraient d'être chacun développés. On pourrait parler des femmes de Dieu beaucoup plus. On pourrait parler de Babylone beaucoup plus. Mais j'aimerais surtout aussi beaucoup parler de la voix de Dieu, la voix de Dieu qui se fait entendre. Alors j'ai eu cette semaine l'occasion de recevoir chez moi, dans cette grande maison vide, il fallait bien la remplir un peu, et j'ai eu l'occasion, je dirais, de recevoir, presque le privilège, hein, de trouver des personnes qui s'intéressent à la Bible et qui sont des témoins de Jéhovah. La plupart d'entre vous connaissez un peu ce que sont les témoins de Jéhovah. Et ce sont des personnes qui, d'une manière étonnante, eh bien, nient que Dieu puisse parler, ou qui inconsciemment le font. Quand vous prenez avec eux le grand passage de Jean 1:1, où il est dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien n'a été fait, de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie des hommes. Quand vous leur dites ça, ils disent, ah oui, il y a Dieu, et puis il y a à côté de lui son porte-parole, quoi. C'est pas Dieu. Mais c'est son porte-parole, d'accord ? Vous voyez, il y a Dieu, le grand Dieu, puis il y a l'autre à côté qui parle pour lui. Et c'est une perversion de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et elle nous dit finalement que... celui qui est venu dans le monde n'était pas simplement un porte-parole de Dieu, mais qu'il était Dieu lui-même. Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit finalement qu'à chaque fois que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament à Moïse ou aux prophètes ou même à Anne, ou à toutes ces personnes, eh bien que finalement c'était Jésus-Christ qui parlait à ces personnes. Quand Dieu parle, oui, c'est Jésus-Christ qui parle, quelque part. Il y a la question de l'incarnation. Mais oui, quand Dieu parle, c'est Christ, c'est son Fils qui nous parle. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et heureusement, Dieu nous parle. Il nous parle, il se fait entendre à nous, il se fait entendre à nos cœurs. Il nous parle par l'écriture, bien sûr. Et je dirais, il nous fait vibrer, quelque part, dans le bon sens du terme. Il fait que c'est lui qui fait la différence et c'est lui qui s'oppose à la voix du monde, à la voix de Babylone, à toutes ces voix qu'on peut entendre. C'est lui qui peut-être confirme la voix de nos parents, de notre père ou de notre mère. C'est lui. C'est pas juste nos parents. C'est pas juste nos frères ou nos sœurs ou nos oncles ou nos tantes qui nous parlent, mais c'est aussi Dieu qui vient nous parler et qui veut nous parler. Et c'est de ça dont on a besoin. On a besoin que Dieu nous parle. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « La parole de Dieu est vivante et tranchante, plus aiguë qu'une épée à deux tranchantes. Elle sonde les jointures et les moelles. Elle sonde le cœur. » Et Dieu nous parle. Il en est capable. Regardez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Tout au début de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. On va s'arrêter là. Et on voit ici Dieu nous parle de son Fils, celui qu'il a introduit dans le monde, et il nous parle de sa parole, celui qui vient de lui. Et il nous dit que Dieu nous a parlé par cette parole, il nous a parlé par cette parole incarnée, par Jésus-Christ. Que dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ. Et si Dieu influence nos vies, s'il détermine nos vies, eh bien c'est aujourd'hui, je dirais uniquement et entièrement par sa parole, pas par autre chose. Dieu nous a parlé définitivement par le Fils. Et regardez plus loin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2. Donc au chapitre 1, donc il y a le passage qui continue et qui parle de la supériorité de Christ aux anges. Et au chapitre 2, il nous est dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'adresse à des chrétiens qui étaient un peu chancelants, qui hésitaient un peu entre le temple ou pas le temple, qui était repris peut-être certains par certaines pratiques judaïques. Et ici, il les met en garde, et toute l'Épître aux Hébreux met ces chrétiens en garde, et ici, il leur dit, mais nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. C'est des personnes qui avaient entendu la parole, qui connaissaient beaucoup de choses. Et il dit, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Voilà. Et quand on lit l'Épître aux Hébreux, quand on étudie l'Épître aux Hébreux, on voit qu'il y a ce défi un peu pour ces chrétiens. Certains sont à la limite de retourner en arrière, d'abandonner la foi ou autre. Et celui qui écrit l'Épître aux Hébreux, si c'est Paul ou quelqu'un d'autre, leur dit c'est pas possible. Si sous la loi de Moïse, les gens ont reçu une juste rétribution avec ce qu'ils ont entendu dans le désert ou autre, bien il dit à plus forte raison, nous devons être attentifs à ce que nous avons entendu, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses. Et donc le salut qui... donc, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu peut nous parler dans ce monde et nous parle de différentes choses, mais avant tout dans la Bible, il parle de notre salut, de notre éternité. Et notre salut, notre éternité dépend grandement du fait que nous soyons attentifs à sa voix. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la rébellion, et là il parle d'Israël. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit Christ qui s'adresse à ses églises, et qui arrive à la dernière église, l'église de Laodicée. Il dit... si quelqu'un entend ma voix, aussi je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvrirai la porte et je souperai avec lui. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Christ a une communion avec nous. Il veut nous faire entendre sa voix. Et nous n'avons besoin de rien d'autre que ça, finalement, d'entendre sa voix qui nous parle, qui nous apaise, qui nous donne confiance, qui nous fait comprendre qu'il est plus grand que le monde, plus grand que les obstacles dans ce monde, que lui parle, que lui n'est pas troublé, que lui sait les choses, que lui connaît les choses, même avant qu'elles arrivent, que lui connaît Babylone, que lui connaît le monde, que lui connaît l'ivresse de ce monde, l'enrichissement de ce monde, la débauche, les grandes villes ou autres, et que lui n'est pas impressionné par ça, que la chose la plus importante, c'est d'entendre sa voix qui nous parle par l'Écriture, parce qu'il n'y a pas d'autre réalité, il n'y a pas d'autre révélation, il n'y a pas plus à apprendre ou moins à apprendre. Il n'y a pas de Joseph Smith qui a écrit un livre de Mormon ou de Mahomet qui a écrit un Coran. Il y a Christ qui nous parle par l'Écriture et qui nous veut du bien
et qui veut notre salut. Et c'est ça que nous devons entendre. Amen.